Bonjour, bonjour auditeurice. Tu es toujours sur le 98.6 et sur Radio Résistante. Maintenant, il est 15h16 et c'est moi, Figuée, qui vais reprendre la main sur la fréquence avec mes copaines pour une petite heure de discussion sur la question d'écologie queer. Avec moi dans le studio pour l'interview, nous avons donc Sophia. Bonjour Sophia.
Salut Figuée.
Et nous sommes aussi en présence de trois fabuleuses, dont pour le moment deux, mais quelqu'un va nous rejoindre, fabuleuses invitées. Bonjour Lu, Béné et Canel. Vous faites donc toutes les trois parties des personnes qui s'organisent pour permettre au festival Les Digitales d'exister. C'est un festival d'écologie vénéneuse, on peut dire queer, qui a lieu à la Baudrière fin août, donc à Montreuil. C'est dans ce groupe que vous vous êtes rencontrés et de plus, maintenant, Canel et Béné font aujourd'hui des thèses sur la question de l'écologie queer. Personnellement, je vous ai découverte, et j'ai découvert l'écologie queer au festival organisé par Voix des Terres et dans le podcast Avis de Tempête. Et aussi, ce podcast, vous l'utilisez lors de vos ateliers et vous avez justement animé un atelier aujourd'hui aux Résistantes sur la question de l'écologie queer dans la flexure de la zone de soins. Est-ce que ça s'est bien passé ?
Ouais, c'était vraiment super, c'était sympa de se retrouver dans cette yourte. On était 12-13 de personnes qui ne se connaissaient pas à la base et de discuter en gros des liens qu'on faisait entre l'écologie et nos identités queer. Et on en a profité pour parler de comment on se sentait dans ce festival et de se faire des retours. Donc c'était très très bonne ambiance et on remercie toutes les personnes qui ont rendu possible ce village soin et cet espace qui nous tient très à cœur.
Et du coup, est-ce que vous pourriez nous définir la notion d'écologie queer ?
Déjà, le queer, c'est une façon aussi de politiser les identités LGBTQIA+++. Et écologie, pour nous, c'est un peu s'inscrire quand même dans un mouvement d'écologie politique et de penser les luttes écolo, de réappropriation des terres, par exemple, des luttes locales, etc., mais avec cette dimension queer. Après, c'est pas juste une juxtaposition un peu des deux concepts, et puis on en fait quelque chose. Mais on essaie vraiment, en fait, de se réapproprier aussi l'écologie politique. Enfin, c'est pas juste queeriser les milieux écolos, c'est vraiment aussi comment on peut voir l'écologie politique depuis un point de vue, pardon, qui soit pas cis-hétéronormé comme souvent.
Et justement, pourquoi est-ce que vous ressentez qu'il y a ce besoin d'utiliser ce nouveau terme, ce nouveau concept ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Oui, alors, pour donner le parallèle, par exemple, hier, vous nous avez invité à l'émission sur l'écoféminisme. Merci encore, d'ailleurs. Et là-bas, on avait bien explicité que l'écoféministe reconnaissait que l'environnement et la nature avaient été soumis au patriarcat et que ça avait été une des façons dont le capitalisme et l'accaparement, justement, des terres et des ressources avaient été permis. Et du coup, l'écologie queer reconnaît aussi ce lien qui est fait entre la façon dont l'environnement a été soumis à la cis-hétéronormativité et ce que ça a créé en termes d'effets sur les populations, sur la manière dont on se lie avec la nature, pas seulement les personnes queer d'ailleurs. Donc pour donner un peu d'histoire à ça, en fait, c'est aussi beaucoup passé dans la façon dont les sciences comme la biologie ou la botanie ou la zoologie ont été construites. Où en fait, beaucoup de personnes qui ont participé à ces études au 18e ou 19e siècle étaient beaucoup des hommes cis blancs et hétérosexuels et qui, du coup, regardaient la nature avec leur propre biais. Il y a aussi eu le fait que la discrimination contre les LGBT faisait que toutes les études sur les comportements animaux qui rentraient dans un spectre queer, c'est-à-dire par exemple les comportements lesbiens, les animaux, on va dire, trans, parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser les mêmes termes pour parler de la nature, mais tous ces comportements-là étaient vraiment soit... Donc j'ai fait un peu de recherche sur ça. Soit ils étaient répertoriés en bas de notes en disant en fait cette espèce-là fait ça, mais sans vraiment en faire un sujet. Soit ces données-là étaient carrément rayées et enlevées pour pouvoir permettre à ces publications d'être publiées parce qu'il y avait un ridicule et vraiment tout était tourné en dérision autour de ces études-là. Soit justement pas regardé parce que le biais était là depuis le début et que c'était pas considéré comme un sujet ou quelque chose qui devait être intéressant ou à regarder. Et ça a changé dans les années 80, 70, 80. Une des premières études a été faite autour des comportements des mouettes qui maintenant on trouve qu'on a a trouvé qu'environ 40% des mouettes ont des comportements lesbiens. Et en fait, surtout que ça permet, ces comportements et la couritude dans la nature permet à la nature d'exister, permet à la nature de se développer, permet aux espèces de se reproduire et forme intégralement partie de la façon dont l'environnement et notre environnement et nous-mêmes fonctionnons en fait. Donc ces mouettes-là, par exemple, il avait la raison pour laquelle cette étude avait été menée, c'est parce que les chercheuses avaient trouvé que les nids des mouettes comportaient plus d'œufs qu'une mouette pouvait pondre. Et ils s'étaient demandé pourquoi, et elles s'étaient demandé pourquoi, et c'était parce que les mouettes mettaient en commun leurs œufs pour les élever à deux, en fait se faisaient ou s'inséminaient auprès des mouettes mâles, et ensuite élevaient leurs œufs à deux pour justement mettre en commun leurs ressources, mettre en commun leur vécu, etc. Et en fait, je peux donner aussi un petit exemple avant de repasser la parole. Ça a été aussi vu dans les comportements des lézardes. Donc il y a des espèces de lézards qui vivent exclusivement femelles. Enfin, il n'y a pas de mâles dans cette espèce-là, qui se reproduisent par du clonage. Et en fait, ces lézardes-là, alors que même il n'y a pas besoin pour se reproduire, forment un nid à deux, un couple à deux, et ont des comportements sexuels parce que ces comportements sexuels leur permettent de créer du lien entre deux personnes pour pouvoir s'occuper de ce nid-là et s'occuper de ces espèces-là. Donc voilà, en fait, ce qu'on essaye de montrer aussi, c'est que pendant très longtemps, la façon dont les comportements queer dans la nature et dans l'environnement font partie intégralement de la façon dont la nature fonctionne a été complètement invisibilisée. Et c'est ça qu'on essaye de révisibiliser aujourd'hui avec le concept d'écologie queer.
Tout à l'heure, Canel, tu parlais des mots qu'on utilise pour définir les animaux et la nature d'un point de vue du queer. Peut-être c'est nécessaire aussi d'inventer de nouveaux mots, une nouvelle sémantique pour parler de tout cet univers qu'on commence tout juste à explorer.
Ben justement, le problème c'est qu'il n'y a pas seulement le problème de la façon dont les LGBT ont été discriminés, il y a aussi le fait que notre rapport à la nature est extrêmement anthropocentrique. Donc de toute façon, même quand on veut repenser la nature, on donne les termes qu'on se donne à nous sur la nature. Donc c'est vraiment très compliqué à jouer avec ça pour pouvoir trouver des nouveaux termes. Mais oui, moi personnellement, je suis plus dans la team qui cherche à inventer des nouveaux mots pour justement faire surgir toutes ces choses qui ont été invisibilisées, plutôt que de dire que c'est lesbien parce que les humains font ça. En fait, c'est très différent aussi. Et en même temps, c'est très similaire.
Et surtout que quand on nomme des choses, on peut aussi les penser. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est intéressant et important de rechercher à cette nouvelle sémantique.
Là, on voit tout ce qui a été un peu effacé, caché. Et je me demandais, quand est-ce qu'on a pensé tout ça? Quand est-ce que le concept, du coup, que vous nous avez expliqué d'écologie queer est apparu? Est-ce que c'est un concept vraiment nouveau? Et quel est son lien avec la pensée de l'écoféminisme aussi?
Alors moi, j'avoue que par exemple, j'ai découvert le terme en anglais, donc c'était queer ecology, et c'était une écoféministe pour le coup qui avait écrit un article sur, avec la question est-ce que l'écoféminisme peut être queer? Et c'est Greta Gard qui travaille beaucoup sur ces questions d'écoféminisme queer. Et il y a aussi une autre chercheuse qui avait pensé le terme un petit peu de manière antérieure, et c'est un article de 94 qui s'appelle vraiment Queer Ecology, où elle parle de tout ça, et elle essaie aussi de voir un peu tout ce qui s'imbrique dans la définition de la nature qui est hyper normative, en sachant que ouais, les personnes queer sont soumises à une naturalisation comme les femmes dans l'écoféminisme très forte, et qu'on peut faire le lien là au niveau politique, quoi, dans cette naturalisation là, ce qui nous amène forcément depuis un point de vue de nos identités queer à vouloir un peu reconceptualiser et redéfinir la notion même de nature.
Justement, quels vont être les grands concepts utilisés par l'écologie queer? J'imagine qu'il y a le concept de binarité, de capitalisme, de patriarcat, de cis-hétéronormativité que vous expliquez. Est-ce que vous pourriez nous définir un peu ces concepts?
Alors oui, on peut définir les concepts. Donc pour celles qui ne sont pas trop au courant sur les théories queer et en gros sur l'aspect LGBT... nos sociétés, en gros, quand on dit cis, quand on parle de cis-normativité ou de personnes cis, les personnes cis sont les personnes qui se reconnaissent dans le genre qui a été attribué à la naissance. C'est-à-dire que si vous êtes né dans le corps d'une femme et que vous vous sentez femme, vous êtes une personne cis. Et ensuite, il y a un spectre gigantesque de personnes qui s'identifient soit à ce sexe-là, enfin à ce sexe ou ce genre-là, soit comme personne non-binaire, c'est-à-dire qui ne s'identifient ni homme ni femme, ou sinon et homme et femme, ou sinon juste ne s'identifient pas à un genre tout court, et des personnes trans, c'est-à-dire qui pourraient s'identifier avec un autre genre, c'est-à-dire une personne qui est née dans un corps de femme mais qui s'identifie comme homme. Mais évidemment, là, on simplifie, le spectre est très 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 grand, et c'est pas faire justice que de le dire comme ça, mais pour les personnes qui ne sont pas initiées, c'est assez clair.
Je me demandais aussi ce que la pensée queer permet lorsqu'elle réfléchit l'écologie. Donc, est-ce que c'est une nouvelle vision du savoir critique qui va être revisitée ? Et qu'est-ce que ça va faire évoluer dans les concepts d'écologie, justement ? Quel va être l'impact sur nos luttes écologiques, par exemple ?
Oui, tu disais une redéfinition. On a parlé aussi de proposer de nouveaux mots, etc. Et ça se traduit aussi, de fait, dans notre présence en tant que personne queer dans les luttes, quoi. Il y a un peu ces deux volets, effectivement, de reconceptualiser la nature et de fait d'être dans les luttes écolo, quoi.
Et est-ce que, au contraire, il y a aussi quelque chose que l'écologie va pouvoir amener à la pensée queer ?
Je pense que oui. Donc, un des axes, par exemple, enfin, en fait, l'écologie queer ouvre vraiment énormément d'axes, et comme c'est une science, enfin, un chemin assez récent, enfin, on n'est pas très, je saurais pas vous donner une réponse exacte, mais par exemple, un des axes qui est ouvert par le fait d'amener l'écologie dans les milieux queer, on va dire, c'est justement de penser les personnes queer et nos interactions comme dans des écosystèmes. Donc, par exemple, de se dire que respecter le pronom de quelqu'un, respecter comment la personne s'identifie, c'est faire partie d'un écosystème, c'est respecter la façon dont quelqu'un veut vivre en tant qu'être, en tant que personne vivante. Donc, d'une certaine façon, ça dépolitise et repolitise en mettant un peu cet aspect-là de pas seulement... je disais tout à l'heure que il y a un souci dans la façon dont on regarde l'environnement de façon anthropocentrique et de mettre nos termes sur l'environnement. Mais si jamais on adopte les termes et les fonctionnements que nous, on attribue à la nature et qu'on y pense, nous, ça permet aussi d'ouvrir pas mal d'axes comme ça.
Ok, super. On a, je pense, assez bien compris le concept. Du coup, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Pendant que les champs brûlent de Heut. Et après ça, on va appliquer ces concepts à plusieurs milieux, dirons-nous.
Les arbres se pensent plus fort que tout. Accrochés aux branches, l'air me semble encore trop doux. Les champs brûlent.
Vous êtes donc toujours sur Radio Résistante et avec Sophia, nous sommes toujours aussi en compagnie de Canel et Béné et Lu ne devrait pas tarder à nous rejoindre pour parler d'écologie queer, un concept que nous avons tenté de définir dans la première partie de cette interview. Et maintenant, nous voulions vous proposer de voir l'application de l'écologie queer à différentes questions.
Oui, par exemple, dans l'organisation des espaces naturels, on a dit que la pensée queer dans l'écologie permet de repenser l'action de l'homme sur la nature. Et donc, comment cette écologie queer aussi permet de repenser cette organisation des espaces naturels? Par exemple, à un off, vous nous avez parlé un peu des cimetières, des jardins, de la façon dont on vit avec et dans l'environnement.
Alors oui, donc une des façons dont justement l'écologie queer met en pratique en gros ces observations sur la façon dont la nature a été victime de la cis-hétéronormalisation, c'est de voir que ceci se traduit très pratiquement sur la façon dont on organise nos espaces. Donc là je vais parler plutôt en ville mais aussi à la campagne, par exemple dans l'organisation d'espaces tels que les jardins, les cimetières ou les zoos par exemple. Donc on peut voir que les cimetières, ce sont des espaces qui reproduisent justement cette idée de famille mononucléaire hétéroparentale, très très souvent, et sont des espaces où en fait on va créer une sociabilisation hétéronormée et cis-hétéronormée parmi les jeunes ou parmi les enfants. Et beaucoup de personnes, du coup, vont construire leurs identités dans ces espaces-là qui traduisent cette cis-hétéronormalisation de la nature. Et donc, en fait, j'ai une anecdote assez que j'aime bien raconter sur les parcs, c'est que les cyprès qu'on associe aussi souvent, sur les cimetières, donc les cyprès qu'on associe aussi souvent avec le deuil et qu'on met partout dans les cimetières, en tout cas dans notre culture occidentale, viennent en fait du mythe de Apollon et Cyprasus qui étaient deux amoureux gays. Et quand Cyprasus, je sais plus si je dis bien le nom, mais c'est Cyprasus ou Cyprasus, Apollon avait offert à Cyprasus un cerf en cadeau et Cyprasus l'a tué. Malencontreusement par erreur pendant qu'il chassait et par deuil et par tristesse d'avoir tué ce cadeau, avait demandé à être changé en cyprès pour pouvoir exprimer son deuil et ne vouloir être en deuil éternel en gros de cette erreur. Et donc en fait tous ces espaces hétéronormalisés où on construit cette identité en fait sont peuplés d'un symbole très très fort de l'amour gay. Voilà, donc j'aime bien raconter cette histoire.
Et est-ce que, Béné, tu veux nous parler un peu plus des cimetières? Tu nous as dit que tu étais spécialiste.
Oui, alors peut-être pas spécialiste des cimetières, mais oui, j'ai un peu travaillé sur la question effectivement de la gestion de la mort, enfin, dans une optique un peu de biopouvoir, etc. Et c'est vrai qu'au 19e, par exemple, en Angleterre, se sont un peu mises en place les cimetières avec des murs, etc., et tels qu'on les connaît, les cimetières communaux, ce qui n'existait pas vraiment avant, parce que, évidemment, on avait quand même une volonté à cette époque, enfin, de la part de la bourgeoisie, en tout cas, de contrôler la circulation des populations et des corps, etc., et ça s'est aussi traduit par ça, en sachant qu'à Londres, il y a un cimetière qui est connu pour avoir beaucoup dérangé le voisinage, parce que c'était un cimetière qui est devenu un lieu, comme on dit, de cruising, quoi, de rencontres gays, et qui, par ailleurs, était géré par des personnes plutôt pauvres, enfin, qui n'avaient pas forcément bien entretenu le cimetière, qui était devenu un peu sauvage. Et du coup, on a voulu à la fois faire fermer ce cimetière et cet espace qui était devenu un repère, en fait, de la culture gay. Et autre petite anecdote, du coup, que j'ai pu connaître, en plus, c'est vraiment situé dans un quartier qui est devenu un quartier clairement lesbien, voilà, plutôt justement de lesbiennes issues des classes populaires.
Tout à l'heure, Canel, tu nous parlais de, justement de comment est-ce que l'organisation de l'espace va aussi impacter les personnes en retour. Donc, est-ce que tu pourrais nous développer un peu plus là-dessus sur comment le fait qu'on organise de manière cis-hétéronormée nos espaces ruraux va reproduire justement cette cis-normativité dans la construction des personnes et des individus?
Alors oui, donc dans le cadre de nos thèses avec Béné, on organise des ateliers sur l'écologie queer, donc en non-mixité avec des personnes queer pour discuter justement de nos rapports à la nature, enfin pas seulement, mais en partie de nos rapports à la nature. Donc ça, c'est un des sujets de ma thèse qui m'anime beaucoup, et dont ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de fois la construction, et pas seulement pour les personnes queer, mais la construction de nos propres identités passe par un certain rapport à l'environnement, passe par un certain rapport à la nature. Et par exemple, du coup, on peut penser que des espaces comme les cimetières, comme les zoos, qui très, très, très souvent ne marquent pas du tout l'aspect queer des animaux ou des insectes, etc., enfin, qui sont dans les cages. Donc, c'est des espaces où, en fait, on va véhiculer cette idée que la nature est hétéronormée. Et en fait, ce qu'on a vu dans nos recherches, c'est que beaucoup de personnes, du coup, intègrent ça et grandissent avec ces messages-là, pas seulement dans les milieux sociaux, dans la maison, à l'école, comme on dit souvent, mais aussi dans les espaces ruraux, dans la campagne, dans les parcs, dans les zoos, etc. Donc, il faut intégrer ça pour pouvoir mieux combattre l'homophobie, la transphobie. Il faut aussi combattre cette façon dont on voit la nature. Donc, c'est vraiment pour insister que c'est pas un concept un peu loufoque, mais c'est quelque chose qui a un impact très concret sur nos vies. Et d'une façon assez intéressante, il y a aussi le contraire qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qu'on a interviewées, en tout cas, nous ont dit que, en fait, quand elles ou ils étaient petits et peut-être se sentaient pas à l'aise dans leur corps, dans leur façon d'être, se réfugier dans la nature, s'identifier comme des animaux, s'échapper de la société qu'ils ou elles trouvaient contraignante en se mettant dans la nature, en s'imaginant et en s'échappant. Donc il y a aussi cette partie-là qui permet une certaine liberté, qui est aussi intéressante à prendre en compte.
Donc l'écologie queer permet aussi de penser la ruralité. En fait, pendant un de vos ateliers, ça m'a un peu été appris, donc je me suis rendu compte de ça, on en a parlé, du fait que certains préceptes écologiques peuvent être de retour à la nature et peuvent aller contre certaines pratiques des personnes queer qui justement, dans la ruralité, fuient la ruralité justement pour chercher une forme d'invisibilisation dans les grandes villes ou bien... une communauté aussi dans ces villes. Et du coup, il semble qu'il y ait un peu un dilemme ou un paradoxe de vivre d'une manière queer et de vivre en suivant des préceptes, si je puis dire, écologiques. Comment est-ce que justement l'écologie queer et l'expérience d'écologie queer permet de résoudre ces paradoxes?
Ah oui, c'est vrai que c'est souvent présenté comme un paradoxe, l'idée d'être et queer et en campagne. Souvent on a connu notre socialisation et on a connu d'autres personnes queer en ville, et c'est vrai que c'est un peu un blind spot, quoi. C'est la campagne, ce serait pas un lieu où il y aurait des queers, mais de fait aujourd'hui, on en parlait même tout à l'heure, une personne qui disait j'ai pu faire cette année 3 prides, en fait il y a un peu une explosion au niveau de la visibilité locale en fait dans plusieurs régions en France, de ce que je sais plutôt dans le sud, dans les Pyrénées, vers Aurillac aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Cette année, c'était la première Pride à Aurillac. Donc, c'est vrai que c'est souvent présenté, comme tu disais, du coup, figuier comme un truc paradoxal ou un truc irréconciliable. Mais de fait, on est plusieurs aussi à avoir grandi en campagne. Et je sais que quand je suis allée au Jardin des Passages, qui fait aussi un travail de réseau un peu associatif dans la région, là, justement, autour d'Aurillac, enfin, pas très loin de l'Occitanie aussi. Mais l'idée, justement, c'est de visibiliser des identités pour les futures générations de personnes non-binaires, queer, etc., et qui se sentent plus avec des modèles, etc., des choses qu'on n'a pas connues il y a 10 ans quand on a grandi en campagne.
Et à ce propos, on peut aussi rappeler qu'en Aveyron, il existe un collectif qui s'appelle Les Bonnes Débroussailleuses, qui a, je crois, 2 ans, et qui a organisé des marches des fiertés rurales en Aveyron. Donc on peut aussi citer ça parmi les expériences queer qui existent au milieu rural. Et du coup, il y a Pauline qui souhaite aussi prendre la parole depuis la technique.
Ouais, je m'ouvre un micro depuis la régie parce que je crois que il y a peut-être un truc aussi dans l'usage du terme queer qui est assez récent, mais en fait qui peut peut-être, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais recouper des choses qui sont peut-être plus anciennes, je veux dire d'avoir des terres de femmes, d'avoir des terres lesbiennes, en fait ça existe en France depuis les années 70 si je dis pas de bêtises. Et du coup, peut-être que le mot queer n'était pas utilisé, peut-être que c'est pas exactement le même prisme, mais que pour autant, ça peut se recouper sur qu'est-ce que c'est qu'une expérience de vie à la campagne. Enfin voilà, je trouve que ce serait dommage aussi d'avoir l'impression que c'est quelque chose de tout nouveau, parce que justement, il y a des prides depuis peu de temps dans des petites villes ou dans des villes moyennes un peu rurales, que d'oublier qu'il y a eu des choses qui ont été faites par des générations précédentes, même si c'était pas exactement sous les mêmes termes.
Oui, tout à fait. Et juste pour rebondir, il faut, comme on est sur le plateau du Larzac, on peut aussi citer qu'ici, il y a une gestion des terres assez particulière par la Société civile des terres du Larzac, qui pour le coup est très ouverte à l'installation de nouveaux projets paysans. Et du coup, il y a de plus en plus de femmes, personnes LGBTQIA+, j'en suis pas au courant, mais en tout cas... J'avais fait une émission de radio sur ça, sur le fait que sur le Larzac, bah, c'est effectivement un peu plus facile de s'installer en tant que paysanne.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pauline. Merci d'avoir pris la parole pendant l'émission. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, peut-être qu'il faut rappeler un peu l'histoire du terme queer. Donc le terme queer, il a vraiment émergé plutôt dans les années 80 en réponse à l'épidémie du sida, où des personnes réclamaient, en fait, trouvaient que... peu été fait de par les lobbies, on va dire LGBT un peu traditionnels, et disait que là on est en train de mourir, il faut réclamer le fait qu'on sort du cadre, on est des personnes marginalisées, on est des personnes qui ont trop subi, on veut sortir de ce cadre, on veut, il y a une technique un peu plus offensive, et il y a une tactique qui essaye de vraiment reconnaître que toutes les identités se font sur un spectre et de ne pas exclure personne. Mais oui, c'est pour dire qu'il y a énormément d'initiatives qui ont été portées bien avant que ce terme n'existe ou qu'il soit utilisé pour parler d'écologie, et on peut citer par exemple, hier on parlait d'écoféminisme, mais le Greenham Commons qui a été très connu en Angleterre pendant les années 80, qui était un site de reprise de terre par des femmes contre un projet d'armement nucléaire, a été très 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 enfin a été extrêmement lesbien. Il y avait beaucoup, enfin regroupait beaucoup de techniques et de stratégies et de personnes lesbiennes, mais a été beaucoup invisibilisé, on en parlait hier, par l'écoféminisme hétérosexuel. Mais en général, on peut parler de beaucoup de reprises de terre dans les années 80 en France, un peu partout, qui ont été aussi organisées par des lesbiennes, beaucoup dans aussi une stratégie de non-mixité, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà.
Ah bah oui, merci d'avoir soulevé ça et d'avoir rappelé ça, parce qu'effectivement, il y a quand même une continuité dans cette histoire des terres de femmes, de reprise des terres qui vient d'être évoquée, et quand même aujourd'hui cette explosion un peu des prides, c'est pas effectivement quelque chose de nouveau, ça s'inscrit aussi dans une sorte de féminisme queer, quoi.
Justement, moi ça me faisait penser que le retour à la nature, le retour à la ruralité de personnes queer, souvent s'inscrit dans une forme de collectivité. Disons, quand on en parle de collectif, tu parlais, je crois, des Sylvestres, c'est ça que tu as évoqué tout à l'heure. Donc des collectifs qui vont s'organiser et s'installer en étant des collectifs queer. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez pensé cette question de justement un changement aussi de ce que c'est que la ruralité, ou un retour un peu au collectif qui a un peu disparu ces dernières années par des communautés qui seraient plutôt formées dans des milieux pas ruraux justement, et qui ensuite reviendraient s'installer dans des milieux ruraux.
Oui, je crois que j'évoquais le jardin des passages, mais c'est un peu pareil que les Sylvestres, parce que elles se donnent un peu la même mission et la même étiquette d'espace refuge, d'espace de soins. Et je sais que pour le jardin des passages, c'était des personnes queer et lesbiennes qui vivaient à Nantes et qui ont aussi, de fait, pu remarquer un manque de soins dans les milieux militants. C'était déjà il y a quelques années, donc ça progresse doucement. Et qui se sont dit qu'il y avait vraiment besoin d'un espace comme ça, de repli, entre guillemets, par rapport à la charge aussi, ou à la violence, à la fatigue qu'on ressent dans les milieux militants. D'avoir ces espaces-là aussi, qui sont des espaces d'autonomie et de vie en collectivité, qui soient aussi beaucoup plus douce, quoi, pour l'avoir expérimenté, qui se fait autour d'un quotidien, quoi, qu'on fabrique ensemble et qui est chouette juste à expérimenter, en ayant moins de pression finalement de pas mal de choses aussi qui se passent dans les milieux militants avec des non-mixités très différentes et tout.
Oui, et puis pour revenir sur ce que disait Pauline, au-delà des collectifs, des initiatives et tout ça, on peut aussi parler juste des individus LGBT qui vivent à la campagne, qui ont toujours existé, qui sont invisibilisés très souvent et n'ont pas forcément envie de faire partie d'un collectif pour être connus. Et sur ce sujet, il y a la Via Campesina, du coup, qui est normalement assez proche des réseaux dont on gravite aux résistantes, qui en 2017, à son congrès, a reconnu que être LGBT, ça rajoutait des difficultés et ou en tout cas une identité particulière en tant que paysan et paysanne. Et donc depuis 2017, elles font des rapports, je crois à peu près tous les ans, sur justement la condition et la situation des personnes paysannes LGBTQ+, sans forcément que ce soit des choses collectives, etc., en tant qu'individu. Donc je vous invite à aller voir ce rapport, et ça a été un moment très très important dans l'histoire de ce collectif.
Merci beaucoup. Et du coup, Béné nous a parlé du soin. Et on va en parler juste après avoir écouté Rayon Gamma de PR2B sur Radio Résistance.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons. Encore une fois de pleurer, minuit pareil. Que les chiens qui se la coulent belle, 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons.
Écoutez toujours Radio Résistante, nous sommes toujours en direct avec Figuier pour un plateau sur l'écologie cuir et avec nos invités Canel, Béné et Lu qui ne nous a pas encore rejointes. On a exploré la définition de l'écologie cuir, vu comment cette pensée permettait de repenser l'organisation de l'espace et de la ruralité. Et maintenant, on voudrait apporter un regard sur l'écologie cuir en rapport aux soins. Donc, quelle impensée du soin permet, l'écologie du cuir permet de mettre en avant ?
Mais justement, je vais rebondir sur un truc hyper concret. Parce que si Lune n'est pas encore là, c'est qu'elle est, elle a rejoint l'équipe FFS du festival, qui gère un peu une situation qui a l'air de demander du temps et de l'énergie. Et je crois qu'elles étaient à l'antenne hier, donc je ne vais peut-être pas redire ce qu'est le FFS.
Festival Fights Sexism.
Voilà.
Oui, il s'occupe des violences sexistes et sexuelles et de la réduction de ces risques-là. Et du coup, il y a des questions aussi par rapport à la place des queers dans cette lutte.
Oui, il y a la question de la place des queers aussi, du coup, aux résistantes, de fait, qui s'est posée, et du choix, du coup, qui a été fait d'avoir un camping en non-mixité, meuf, personne intersexe, non-binaire et trans, donc camping Mint, qui est vraiment... du coup, on a eu aussi un moment... de retour là-dessus pendant les ateliers où toutes les personnes sont super contentes que cet espace ait été mis en place. Mais voilà, on se dit peut-être que globalement aussi, on pourrait faire attention dans les luttes écolo à prendre en compte ça, parce qu'on a l'impression un peu que c'est ce qu'apportent les personnes concernées ou les personnes plus sur les questions féministes ou les personnes queer à chaque fois. Dans les luttes, cette impensée-là du soin, il vient souvent des personnes queer. Je sais que les retours d'expérience à Bure, après les rayonnantes et tout, c'était d'autres personnes pas concernées des luttes anti-nuques étaient contentes d'avoir vu ces espaces un peu s'ouvrir, d'avoir pu respirer dans la lutte, qui est une lutte très très dure, quoi, dans la Meuse. Contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires et qui était vraiment beaucoup dans des rapports de force. En plus, c'est une lutte qui dure depuis des dizaines d'années. Et que ces personnes qui ont fait partie de la lutte ont pu aussi apporter ces questions-là dans les luttes écolo classiques.
Oui, donc on voit qu'il y a une convergence entre les luttes écologiques et les luttes LGBTQIA+. Et ici, sur les résistantes, du coup, tu l'as dit, il y a un camping en mixité choisi. Et donc, à l'espace soin, parmi vos ateliers, vous avez aussi pu collecter des témoignages. En tout cas, voilà, il y a une vigilance, mais une vigilance qui doit être portée par tout le monde, je pense, sur ces questions-là, aussi un milieu festif pendant les concerts.
Oui, en fait, c'est pas seulement pendant les concerts, c'est que ce qui a été beaucoup remonté, c'est que, en fait, on voyait cette enclave de soins-là, qui était beaucoup portée par FFS, dans le camping, etc., mais que ça reste une enclave et qu'il n'y a pas cette impression que ça s'est disséminé ou que ça fait partie de la façon dont le festival a été organisé. Donc, le festival n'a pas été organisé en prenant en compte le fait de comment c'est reçu ou comment c'est vécu par des personnes qui ne font pas partie des normes. Et on parle pas seulement de personnes queer, on parle de personnes racisées, de personnes qui sont non valides, etc. Et donc, dans cet aspect-là, c'est surtout ça qui a été remonté. Et je peux citer, par exemple, qu'en fait, c'est un problème à grande échelle qu'on a. On ne parle pas seulement des résistantes, évidemment. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont dit que c'était bien mieux aux résistantes qu'à d'autres endroits, je tiens à préciser aussi. Mais qu'on parle de quelque chose à grande échelle qui, en fait, nous met tous des bâtons dans les roues. Parce que je connais plusieurs personnes à titre personnel qui auraient voulu se rendre à Notre-Dame-des-Landes, qui veulent aller dans ces espaces où on habite des endroits à reprendre. Mais en fait, dès qu'on parle de habiter et de vraiment vivre 100% du temps dans ces espaces-là, moi je peux parler à titre personnel, je peux pas vraiment passer du temps dans un espace qui prend pas en compte le fait que je fais pas partie de toutes les normes trop longtemps, sinon je m'épuise rien que d'expliquer les choses aux gens, rien que de prendre le temps d'expliquer des concepts, rien de d'ignorer les moments où on dit un truc pas ok mais j'ai pas le temps de répondre parce que je fais autre chose, etc. C'est fatigant. Et du coup, on essaye d'expliquer aussi que en fait tout le monde se met des bâtons dans les roues en n'appliquant pas ces choses-là et en ne pensant pas les choses comme ça. Et peut-être un exemple concret, c'est par exemple le manque de trigger warning sur les films et les projections. Donc on a été plusieurs vraiment à remonter ces soucis pendant les ateliers. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, les trigger warnings sont beaucoup associés à cette idée qu'on est des êtres fragiles et machin et tout ça, et que apparemment, il faut prendre des pincettes avec nous. Non, c'est pas qu'on est fragile, c'est que statistiquement, on a eu plus de chances de vivre des choses traumatiques. Et donc, il faut prendre ça en compte, parce qu'un film qui n'a pas trigger warning, exposé à des personnes qui ont eu plus de chances de vivre des choses traumatiques juste statistiquement, ça va créer des malaises, des problèmes, ça va créer vraiment, sincèrement, une envie, et beaucoup de gens ont eu envie de partir du festival après ce film.
Juste, est-ce que tu pourrais préciser qu'est-ce que c'est un trigger warning en ce sens ?
Pardon, donc du coup, ouais, voilà, encore une fois, un exemple de à quel point je suis baignée dans cette culture, j'en oublie certains termes à expliciter, mais un trigger warning, c'est en gros dire avant de projeter ou de faire voir à quelqu'un quelque chose, ou avant tout spectacle ou quoi que ce soit, des potentiels traumas qui pourraient être réactivés par cette visualisation. Donc on peut parler de trigger warning sur le viol, de trigger warning sur les troubles alimentaires, de trigger warning sur le suicide, de trigger warning sur tout ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce film. Je voulais juste dire très vite que, par exemple, je me rends compte à quel point, une fois que ces trigger warnings ont été mis en place, maintenant, j'ai beaucoup plus de temps disponible en ne me faisant pas traumatiser de certaines choses pour penser seule et imaginer des futurs.
Moi, je voulais juste, pour conclure, qu'on parle, du coup, parce qu'on parlait des festivals, et du coup, il y a le festival que vous aidez à organiser, qui se déroule donc fin août à la Baudrière, qui est donc un squat transpédéguine qui s'appelle Les Digitales. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que ça existe depuis longtemps ?
C'est à Montreuil ?
Ouais, c'est à Montreuil, ouais.
Oui, alors c'est un squat TPG transpédéguine. On parlait de non-mixité tout à l'heure et d'espace qu'on crée justement pour vivre du collectif. Enfin, on est tous à aller régulièrement à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes. Mais la question de l'habiter collectivement, c'est vrai que parfois il passe par cette non-mixité justement pour avoir des espaces de respiration et de lutte aussi très concrètes. Et la Baudrière fait vraiment partie de cet écosystème-là, de gens qui se retrouvent autour des questions d'écologie. Alors là, plutôt, du coup, autour des questions d'écologie urbaine et de défense des squats et de l'habiter en ville. Et ça fait la troisième édition, du coup, qu'on organise, qu'on organise là-bas, à la Baudrière, et qui s'appelle les Digitales, festival d'écologie vénéneuse ou dissidente, ou avec, en fait, toutes les perspectives, tous les angles morts un peu qu'on a pointés jusque-là et qu'on a même pu parfois retrouver aux résistantes. Mais voilà, penser vraiment les minorités de genre, les minorités de race, vraiment essayer de faire convergence aussi avec les questions d'islamophobie, de quartiers populaires. Et c'est aussi vraiment un lieu de convergence puisqu'on va accueillir le convoi de l'eau à la fin. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir rassembler plusieurs luttes écolo sans, en ayant un minimum d'angle mort, en fait.
Merci beaucoup Canel et Béné. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc on invite toutes ceux et celles qui peuvent se rendre à ce festival à s'y rendre. Et sinon, j'espère que vous allez... Est-ce que vous allez y faire un atelier ?
Oui, alors Canel va proposer une de ses balades écolo qui est trop chouette pour voir la nature d'une autre façon. Et du coup, c'est du 23 au 27 août. Ouais.
Et ici, pour votre présence au festival, vous avez prévu autre chose ? Vous avez juste en profité un peu.
Ben là, on sort de l'atelier qu'on a co-animé avec lui aussi.
Super. Bah merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à Pauline à la technique.
Ouais. Et on invite tout le monde à se renseigner sur la question d'écologie queer, à en lire un peu plus.